Dimanche dernier, on a lu et commenté la première partie de cette péricope. Et maintenant, bien c'est la suite qui vient. Jésus se tient à la synagogue de Nazareth. Et là, il est chez lui et il commente l'Écriture avec une telle autorité que les gens, eh bien, s'en émerveillent. Son message, c'est un message d'urgence. C'est un message, en se proclamant, en lisant ainsi le passage précisément d'Isaïe, où Isaïe parle du prophète, de sa venue, et en se l'appliquant à lui-même, Jésus insiste sur l'urgence des temps, et sur, en conséquence, le niveau d'oppression spirituelle où gît le monde. Et ça, c'est l'auditoire l'a-t-il bien saisi ? Ils ont compris, au contraire, que Jésus semblait vouloir s'exalter lui-même, parce qu'il n'y a que de l'incrédulité de la part de l'auditoire. Mais c'est le fils de Joseph. On pourrait croire que, selon la traduction ici, et tel que le texte est construit, on pourrait l'interpréter de façon positive. Il s'étonnait des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et pourtant, il était le fils de Joseph. Si on s'arrêtait là, on pourrait presque les trouver sympathiques. Mais la suite et la déclaration de Jésus ne fait aucun doute à l'égard, au niveau de leur incrédulité. Ils s'étonnent de ce que l'un d'entre eux puisse être devenu aussi sage. Mais ils ne s'étonnent pas du tout du contenu de cette sagesse. Ils ne s'émerveillent pas. Et on sait que c'est le même mot, vous savez, s'émerveiller ou s'étonner, c'est pareil en grec. On pourrait traduire par l'un ou l'autre. Eh bien là, c'est un étonnement sans émerveillement, c'est-à-dire sans caractère religieux. Ils sont là, ils prennent tout au niveau psychologique, au niveau humain. L'un d'entre eux, là, est en train de faire parler de lui dans toute la Galilée, dans toute la Judée, la Palestine en général. Et eux, n'en ont pas de retombées positives. Ça ne favorise pas leur commerce local, ni leur réputation de sagesse à eux, ni les places politiques éventuelles. Rien de tout ça. Autrement dit, Jésus ne sert à rien au niveau de la collectivité. Et sa gloire, là, eh bien, il l'a dans les autres villes, mais ici, à Nazareth, on ne ressent rien, on n'éprouve rien. Jésus leur dit qu'ils sont mis à l'épreuve de la sorte. Vous voyez, Nazareth, c'est la vie quotidienne. C'est la vie que Jésus a vécue pendant 30 ans au milieu d'eux sans jamais faire de miracle, n'en déplaise aux apocryphes. Et c'est pourquoi il s'étonne aujourd'hui, parce que en 30 ans, il n'a jamais laissé paraître quoi que ce soit qui aurait pu leur permettre de soupçonner une personnalité hors du commun, une mission divine. Rien de tel. Et Jésus leur dit, ça c'est votre mise à l'épreuve. Le fait que je paraisse aujourd'hui à la lumière, le fait que j'ouvre les trésors de mon cœur est une mise à l'épreuve pour vous qui m'écoutez. Croyez-vous vraiment que je sois le Messie ? Croyez-vous vraiment que Dieu soit venu au milieu de vous, là ? Que Dieu se tienne même au milieu de vous, pendant 30 ans par exemple, sans ouvrir la bouche, mais qu'il soit là, qu'il écoute, qu'il observe ? C'est ce que Dieu fait du haut des cieux, depuis le commencement du monde. Mais là, c'est encore plus proche. C'est cette mise à l'épreuve-là, donc une épreuve de foi à laquelle Jésus les confronte. Parce que ce qu'ils réclament, c'est que Jésus fasse des miracles. Fais des miracles et nous te croirons. On a entendu dire... ce que tu as fait à Capharnaüm, ce que tu as fait dans d'autres villages, des boiteux, des lépreux, des malades, etc. Eux, ils ont retrouvé la santé, alors vas-y. Ça vous rappelle pas quelque chose, la tonalité au moment de l'arrestation de Jésus, Hérode le fait venir, et, parce qu'il est curieux, de la même façon, il lui dit, bah, vas-y, fais-moi quelques miracles, j'ai entendu tellement de parler de toi. Et puis il est déçu parce que Jésus fait rien et dit rien. Et là, les gens ont le même comportement, la même curiosité, et comme Jésus ne leur donne rien à se mettre sous la dent de ce côté-là, eh bien, ils sont déçus. Vous voyez, dans notre monde contemporain, ça revient très souvent, ce raisonnement-là. Ah, mais si Dieu, là, faisait des miracles, il pourrait assainir la situation économique, ou en tout cas ma situation à moi, personnelle, le drame psychologique que je vis, que sais-je. Alors là, oui, je croirais en lui, ou qu'il fasse des miracles encore plus grands, qui fasse que notre pays domine tous les autres, des choses comme ça. C'est toujours le même rêve récurrent qui vient, c'est que Dieu fasse des miracles, le premier grand et véritable pas, et alors je me donnerai la peine de méditer son message, et son message c'est la vérité. Voyez, raisonner ainsi, fais-nous donc des miracles et on croira. Fais des miracles sans avoir la foi préalablement, sans me demander d'avoir la foi, eh bien ça c'est faire perdre aux miracles toute leur finalité. Les miracles sont là pour nous diriger vers la vérité, donc vers la foi, vers la rencontre de Dieu. Demander à faire des miracles sans autre nécessité que le miracle pur, la démonstration de puissance et l'étonnement là qui en ressort chez l'auditoire, c'est faire perdre au miracle sa finalité religieuse. Et Jésus ne le veut pas. Et il se tait, il garde le silence, il ne fait rien. Jésus confirme ainsi, il confirme aussi par ses paroles sur leur incrédulité et sur le fait que les païens peuvent être certaines fois plus éclairés, il les confirme dans le fait qu'ils ne recherchent pas la vérité. Les hommes recherchent la puissance, les hommes recherchent le ludique en ce monde, les hommes recherchent la jouissance, mais la vérité, ils ne la recherchent pas. Et c'est ça que ce dialogue et le refus qui s'ensuit, violent, eh bien, mettent en lumière. Une intelligence qui a cessé de rechercher la vérité est une intelligence qui tourne en rond dans sa cage comme un animal. Et elle ne peut plus réussir à déterminer, à défaire le nœud qui est établi entre le vrai et le faux. Et elle ne peut plus goûter le sens de sa propre existence. Les hommes en arrivent à devenir des athées, à se dire que leur vie n'a aucun sens, et donc mangeons et buvons tant qu'on le peut. Et ça, c'est des intelligences qui ont cessé d'être finalisées par la recherche du vrai. Le vrai, c'est que nous sommes des créatures, et que nous avons un destin, et un destin qui dépasse ce monde présent, et qui se conjugue à l'éternité. L'éternité est notre mesure, parce que Dieu le veut ainsi. Et ça, Jésus leur fait toucher du doigt la chose. Même dans l'Ancien Testament, des grands prophètes comme Élie ou Élisée, eh bien, ont fait bénéficier des païens de leurs bienfaits, et des bienfaits donc de la foi, des bienfaits de Dieu. Et c'est Dieu, à travers eux, bien évidemment, qui accordait ces bienfaits. Au lieu de ceux qui étaient croyants à l'époque, les juifs de ce temps. Et ils mettent en lumière une chose, c'est que ces épisodes bien connus n'ont jamais été médités par son auditoire. Les grands prêtres, les rabbins de l'époque ne prenaient pas la mesure de ces passages de l'Écriture qu'ils connaissaient néanmoins très bien. Ils ne réfléchissaient pas à ce qui aurait pu les conduire en dehors de leur cercle, à l'intérieur de leur cage mentale. Ces épisodes-là, et beaucoup d'autres, eh bien, nous disent que la vérité n'est pas dans le fait de simplement proclamer la foi d'une façon mécanique, d'une façon idéologique. Sinon, réciter 5 fois sa prière comme dans l'islam, d'une façon aveugle, ça suffirait pour être sauvé. Mais ça ne suffit pas. Et pas plus que pour le juif de l'époque, là, qui fait tous les commandements, qui remplit ses 613 commandements de la journée, ou de la semaine, ou du mois, mais qui ne recherche pas le vrai, ni le bien. Jésus leur dit, vous êtes dans un système artificiel, où finalement tout est psychologique. C'est pourquoi vous me jugez, moi, en fonction de la paternité de Joseph, que vous croyez être mon père et qui ne l'est pas. Le rejet du Christ, la conséquence de cette déclaration de Jésus, qui exige de son auditoire un progrès, la recherche de la vérité, eh bien c'est une réaction extraordinairement violente, puisqu'ils vont essayer de le tuer purement et simplement. Alors je sais bien que dans l'Antiquité, on tuait facilement, également de nos jours dans pas mal de pays, mais quand même, c'est un geste vraiment qui a une grande portée. C'est sous l'influence de la colère, donc de la déraison, là encore, une absence de recherche de la vérité. Mais ça nous dit que l'humilité, s'ils avaient été humbles, ils auraient écouté le Seigneur et auraient réfléchi, peut-être pas résolu la question, mais ils ne se seraient pas laissés embraser par la colère. L'humilité, c'est vraiment quelque chose qui mène à la conversion, qui mène à la vérité. C'est une disposition d'écoute qui rend favorable, eh bien, le salut. Donc ça, c'est déjà la première leçon que nous pouvons tirer de ce passage. Vivons dans l'humilité, cultivons l'humilité. Elle nous mènera un jour, en fonction de ce que nous sommes, les uns et les autres, et des obstacles à renverser sur nos routes, jusqu'à la vérité tout entière. Dans la vie quotidienne que Nazareth symbolise, eh bien, Dieu nous interpelle aujourd'hui de la même façon. Il est là au milieu de nous, pas seulement dans le tabernacle, mais s'il est dans le tabernacle, ça veut dire qu'il est réellement au milieu de nous. Et dans cette société qu'il oublie tellement, eh bien, il faut s'en souvenir et en faire mémoire d'une façon urgente. Et le message du Christ conserve la même urgence et la même gravité. Le monde vit sous l'oppression spirituelle, et l'oppression spirituelle mène à la mort de l'âme, pas à la mort du corps. La mort du corps, elle est prévue, de toute façon. C'est la vie de l'âme qui est l'enjeu de ce que Jésus vient nous donner. Mais Jésus passe au milieu d'eux, nous dit le texte en conclusion. La vérité ne peut pas être arrêtée par le mensonge, par la colère, par toutes les ténèbres qui veulent lui faire barrage. Les ténèbres peuvent empêcher que la vérité, à la manière des nuages par exemple, empêche les rayons du soleil de venir luire sur une cité, sur un pays. Ça, c'est possible. Mais le soleil, lui, demeure intact. Les nuages ont beau faire, lui, il demeure dans son essence et pour Dieu sa sur-essence. C'est la même logique que la passion, cette décision soudaine là, de tuer Jésus comme le feront les grands prêtres. Et pourtant ici nous sommes à Nazareth, nous ne sommes pas à Jérusalem, la capitale religieuse, ce ne sont pas des motifs théologiques qui sont directement invoqués. Non, ce qui est invoqué ici, ce n'est pas le fait que Jésus se proclame être le Messie. C'est le fait qu'il était l'un des nôtres pendant 30 ans et il n'a rien fait pour nous. Il demande encore qu'on se convertisse comme tous les autres et qu'on se trouve mauvais, donc qu'on admette que nous vivons dans le mensonge et sous le pouvoir de toutes les convoitises qui nous attirent. Et que même des païens peuvent être meilleurs que nous. Voilà ce que les gens de Nazareth entendent. Et rien que pour cela, eh bien, ils sont prêts à éteindre pour l'éternité la voie de la vérité. Alors, en conclusion de tout cela, je dirais, soyons humbles pour être attentifs. Je lisais là avant de venir là une nouvelle. Vous savez, il y a un an et demi, il y a eu un très grand, un immense scandale international parce que au Canada, une école au 19e siècle aurait assassiné des enfants indiens et il y aurait eu 215, on les avait comptés, soi-disant. Écoutez la suite. 215 de ces cadavres qui se trouveraient dans le cimetière. Et en fait, pendant 7 mois, puisque l'ONU a demandé à l'Église de creuser la question, eh bien, ils ont creusé littéralement le cimetière. Et en dehors des tombes avec des noms et qui correspondent bien aux gens qui sont en dessous, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, c'est un petit cimetière d'école catholique. Eh bien, il n'y a aucun cadavre, aucune fosse commune, rien du tout. Mais le mal médiatique est fait. Ce scandale a agité les esprits pendant 1 an et demi, là, et en fait, il n'y avait rien, c'était une fake news, un mensonge pur et dur. Alors, soyons prudents devant toutes les annonces qui sont faites quand on nous dit, à travers l'Église, eh bien, que Jésus, vraiment, ça vaut pas le coup, que c'est pas le Messie qui va libérer le monde. Ce sont des mensonges des ténèbres.